présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui Anne-Marie Revkolevski, présidente du projet Aladdin, qui vient de recevoir le 6 novembre dernier à Los Angeles le prix Daniel Pearl de l'ADL, l'Anti-Defamation League, une des organisations américaines les plus importantes de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je le rappelle, Anne-Marie Revkolevski, vous avez lancé le projet Aladdin en 2009, quand vous étiez directrice générale de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, à partir d'un constat simple. En Iran et dans de nombreux pays arabes, on avait une forte propagande négationniste et antisémite, mais il était très difficile d'avoir accès à des textes de référence. Un livre comme le journal d'Anne Frank, par exemple, n'avait jamais été traduit, ni en arabe, ni en persan. Le constat aussi qu'à côté des grandes déclarations politiques, il fallait commencer par des actions simples, traduire des textes, expliquer le judaïsme aux non-juifs et l'islam aux non-musulmans, créer des ponts entre les cultures et entre les personnes. Depuis 2009, 85 000 livres sur la Shoah, en persan et en arabe, ont été téléchargés à partir de votre site ou des 43 autres sites qui les diffusent. Le projet a pris son autonomie et nous sommes très heureux, Anne-Marie, de vous avoir à l'antenne aujourd'hui, d'autant que, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes l'initiatrice de cette émission Mémoire vive qui existe depuis 7 ans. Donc Anne-Marie, pour commencer, quelles sont vos impressions au retour de Los Angeles ? Comment voit-on avec le regard américain votre initiative et votre combat pour le rapprochement des cultures ?
D'abord, comme vous l'avez dit, Rachel, c'est toujours un plaisir de venir, surtout à Mémoire vive. Cette émission qui aussi a pris son envol, et ça me fait toujours plaisir de l'écouter, même quand je l'écoute en podcast, bien sûr. De retour donc, des États-Unis, d'abord, c'était très émouvant. Parce que ce n'est pas n'importe quelle récompense. C'était le prix Daniel Pearl, dont on se souvient qu'il avait été décapité. Et il y avait les parents de Daniel Pearl. Donc ce combat pour l'intolérance, contre l'antisémitisme, contre toute la violence, a été quand même le combat sous-jacent du projet Aladdin. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappée, d'abord, c'est une très grande écoute de la part du public américain, très impressionné qu'une organisation française, même si Aladdin est une organisation internationale, mais qu'une organisation française ait pris de telles initiatives avec de tels résultats. J'espère qu'on va continuer, mais je voudrais juste ajouter que la perception qu'ont les Américains à travers une très grande enquête qu'ils ont faite sur l'antisémitisme, qui est maintenant doublée par cette autre enquête qui a été faite par Régnier, a apporté aux Américains cette image que nos auditeurs connaissent bien, d'une Europe avec un antisémitisme qui croît, d'une France où, en effet, il y a un vent mauvais qui traverse notre pays, même si, et ça a été répété à Los Angeles et à San Francisco, où je suis allée après, l'attitude du gouvernement n'est pas en cause. Et il est clairement fait la différence que nous ne sommes pas à l'époque de Vichy. Nous sommes à une époque où la grande majorité de la population française et le gouvernement est bien décidé à combattre cet antisémitisme. Par contre, qu'il y ait dans la population française et dans la communauté intégriste islamiste, un vrai courant antisémite dangereux est apparu, bien sûr, aussi bien aux Américains qu'aux Européens, qu'aux Français, qui s'interrogent et qui essayent de comprendre un peu ce qui se passe dans notre pays. Et je dois dire que puisque Abe Foxman, qui est le président, le directeur général de cette très grande association, qui va d'ailleurs partir et passer la main, lorsqu'il a abordé la question de la France, puisque moi je venais après, en présentant les différents résultats de cette enquête et montrant que, malgré tout, en France, il y avait au-dessus de 26% d'antisémites et dans lesquels beaucoup de négationnisme, malgré tous les efforts que nous faisons les uns et les autres depuis des années pour enseigner l'histoire de la Shoah, comme on lui posait la question, mais finalement, vous en pensez quoi ? Vous pensez quel est l'avenir ? Et il a dit avec beaucoup de prudence, mais c'est vrai qu'il a un petit peu dit ce que nous ressentons tous, nous aussi, et si les Juifs n'avaient plus leur place en France ? Voilà. Donc, cette interrogation, il n'a pas dit « les Juifs n'ont plus leur place en France », non. Mais il a dit « c'est une question, effectivement, qu'on se pose et qu'on se pose tous après la Shoah ». En même temps, j'ai écouté sur votre antenne, et je dois dire que franchement, ça m'a beaucoup impressionné, le discours de BHL. Et BHL, qui a analysé clairement la situation, en disant on est face à une poussée islamiste, on est face à une intolérance, on est face à une société de violence en général, mais il faut savoir que maintenant les Juifs sont passés par la Shoah et on ne la refera plus. Mmh. C'est ça la différence. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à l'époque des Allemands où on se demandait peut-être qu'on est des citoyens, pas des citoyens. On a été échaudés. Et donc maintenant, même si certains disent dès qu'on touche un cheveu de juif, tout le monde se met à hurler. Bah oui, c'est comme ça. C'est qu'on a été échaudés et donc maintenant on est quand même un peu plus prudent.
Merci pour cette analyse. Mais nous, ce qu'on voudrait savoir aussi, puisque maintenant vous voyagez assez souvent dans les pays arabo-musulmans, c'est quel est le terrain aussi là-bas ? Est-ce que vous avez le sentiment que le négationnisme augmente de manière très dangereuse ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut réfréner ce mouvement ?
Bon, vous savez, malgré tout, même si nous avons des résultats qui sont très étonnants, quand on est face à une vague et à une très grande violence et à une ignorance phénoménale, ce n'est pas Aladdin qui va résoudre les problèmes. Ceci dit, c'est toujours une question que nous posons à Aladdin. Quel est l'impact des actions d'Aladdin ? L'impact des actions d'Aladdin, il est très simple. C'est-à-dire que vous savez que nous avons un site internet qui est en arabe, en persan, en turc, en français, en anglais et maintenant en allemand. Le site en persan a été bloqué par les autorités iraniennes depuis un an. Donc, nous ne savons plus combien d'internautes iraniens le consultent. Mais, par contre, la bibliothèque numérique, vous avez parlé des livres que nous avons traduits, elle est toujours consultée. C'est-à-dire que le journal d'Anne Frank est téléchargé. Et non seulement il est téléchargé, mais nous avons regardé quelles étaient les interventions des internautes qui le lisaient sur différents sites en persan. Et alors là, c'est très spectaculaire parce que vous avez des lecteurs qui lisent Anne Frank, donc des Iraniens, et qui discutent entre eux comme tout le monde discute. Alors vous avez ceux qui disent, écoutez, moi, il faut absolument que vous lisiez ce livre parce que c'est un livre absolument exceptionnel. Je l'ai fait lire à ma femme, je l'ai fait lire à ma tante, je l'ai fait lire à mon oncle. Et vous avez un autre internaute qui dit, oui, mais vous savez, vous devriez aller regarder le site d'où c'est à l'origine parce qu'ils offrent des informations extrêmement importantes. Et puis vous en avez un autre qui dit, ah oui, mais vous savez, je me suis demandé, je suis allée regarder ce site, mais je me demande si c'est pas un site sioniste qui est en train de nous mentir. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais non, si vous le regardez un petit peu plus attentivement, s'il avait été sioniste, vous pensez qu'il... Parce que bien qu'il soit interdit par l'Iran, les internautes iraniens arrivent à se débrouiller comme tout le monde pour contourner, bien sûr. Et c'est très étonnant le dialogue qui se passe entre des internautes iraniens sur le journal. Et d'une façon plus générale, nous avons constaté que quand on tape en arabe, le mot holocauste, alors ça ne se dit pas holocauste, ça se dit le génocide des juifs. Aladdin arrive en quatrième position sur la première page. Les trois premiers sites, c'est Facebook, YouTube et le troisième, c'est Wikipédia. Ça, c'est les trois premiers. Et tout de suite vient Aladdin. Ça veut dire qu'Aladdin est très consulté en arabe. Et en persan, c'est la même chose. Maintenant, on a beaucoup moins de hits, mais avant, Aladdin arrivait en premier. Et maintenant, vous avez le Holocaust. Vous avez d'abord toujours Wikipédia. Ensuite, vous avez le Holocaust Washington Museum. Vous avez Yad Vashem, parce qu'ils ont fait un très gros effort. Et puis, vous avez Aladdin. Donc, je vous dirais que l'impact que nous avons, je dirais que c'est le premier signe. C'est qu'avant, il y avait énormément de sites négationnistes. Maintenant, les sites négationnistes, ils arrivent en quatrième page, en cinquième page. Donc, ça veut dire que ce que nous avons lancé avec tous les sites qui se sont affiliés, et je dirais même Washington et même Yad Vashem qui ont pris aussi la mesure de ce qu'il fallait faire, le résultat, c'est que tous ensemble, avec Aladdin, eh bien, aujourd'hui, nous avons fait reculer auprès de ceux qui consultent les sites et qui souhaitent s'informer, le négationnisme.
Au-delà des sites, vous rencontrez aussi les gens personnellement, notamment, vous avez été dans l'effort du livre au Caire ou dans d'autres pays. Est-ce que vous y êtes bien accueillis, justement, quand vous présentez le journal d'Anne Frank, ou si c'est un homme de Primo Levi est-ce qu'au contraire, le climat reste compliqué ?
Alors, moi-même, par exemple, je suis allée à Abu Dhabi. Je suis allée à la foire du livre d'Abu Dhabi grâce au centre français qui présente tous les livres en français. Et là, il y avait donc Anne Frank, Primo Levi, tous les livres en arabe. Et donc, on avait exposé Anne Frank. Alors moi, malheureusement, je ne parle pas arabe, mais j'ai un directeur, le directeur d'Aladin, qui est arabophone. Et je voyais bien les Émiratis, avec leurs grandes robes blanches et qui sont très élégants, venir feuilleter et regarder ce livre. D'abord, qui était frappant, parce que c'était un livre en arabe parmi des livres français, qui regardait, qui feuilletait, qui était très étonné et qui demandait, malheureusement on ne pouvait pas les vendre à cette époque, mais qui posait des questions, et c'était Abe Ratkin qui répondait. Mais moi-même, j'ai fait à ce moment-là, à la Sorbonne d'Abu Dhabi, une rencontre où il y avait quelques musulmans, pas beaucoup, parce qu'à cette époque la Sorbonne avait un problème de public, mais où il y avait une volonté de savoir avec une sorte de tabou, comme si on allait toucher un domaine qu'il ne fallait pas toucher. Mais en même temps, une certaine curiosité. Mais c'est à cette occasion, et c'est là que je veux dire que si on ne va pas dans ces pays, on ne sait pas comment il faut répondre, que j'ai par exemple découvert que les élèves donc à Dubaï ou à Abu Dhabi, et je crois que c'est la même chose dans tous les Émirats, qui vont dans des écoles américaines ou dans des écoles françaises, et on peut dire que les élites de ces pays vont dans les écoles américaines, ils apprennent la Seconde Guerre mondiale en dehors de la Shoah. Donc il faut à ce moment-là aller dans ces pays pour comprendre que la Shoah reste un sujet tabou. Et nous, avec nos livres, et c'est ça la force d'Aladin, nous ne sommes pas en train de faire de la propagande. Nous sommes en train de dire, il y a tous les pays du monde ont eu accès à cette histoire. Vous avez maintenant des ouvrages, vous pouvez vous en servir. Et à ce moment-là, eh bien, on voit que ça fonctionne. Et on voit que ça fonctionne parce qu'en même temps, je dois dire que je pense que c'est ça qui est très important. Et c'est toujours ce que je dis, moi, quand je vais dans ces pays, et j'ai fait un certain nombre de débats. Vous êtes à égalité avec toutes les autres cultures. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle vous auriez été laissé à l'écart d'un phénomène universel avec des livres qui sont connus par tout le monde et que tout le monde a lu. Et lorsque nous avons projeté Shoah, et que Shoah en turc et même en persan, puisque nous avons réussi, mais je l'ai déjà dit sur cette antenne, à le diffuser jusqu'en Iran à travers une chaîne satellitaire, les Iraniens qui ont répondu, les Turcs, bon, c'était en prime time, donc là il n'y avait pas de souci, mais il y avait une soif de connaissance. Alors, pour répondre, j'ai répondu longuement à la question, est-ce que vous pensez que ça a reculé? Moi je dis clairement oui, ça a reculé, parce que d'abord sur les sites internet, on s'aperçoit que les pages négationnistes, elles viennent après. Donc ça veut dire que les gens consultent d'abord, ils ont conscience qu'il faut aller à la source de l'information. Et en même temps, dans les débats que nous avons eus, il n'y a jamais eu de problème d'agressivité, d'insultes, etc. Et notre propre site reçoit, à part le fait que, pour l'instant, il est bloqué par les Iraniens. J'espère d'ailleurs qu'il va être débloqué. Voilà, j'espère. Et que si nous avons pu aller dans des tas de capitales du monde arabo-musulman, peut-être qu'un jour, eh bien, nous pourrons peut-être aussi aller rencontrer le public iranien.
Donc oui, alors puisqu'on parle de public, vous avez deux publics sur lesquels vous misez depuis le début, les femmes et les jeunes générations. Alors, au niveau des jeunes, vous avez monté dans le cadre du projet Aladin une université d'été qui a eu lieu cette année à la Freie Universität de Berlin sur le thème « Religion, conflit et paix au XXIe siècle ». Pouvez-vous nous en expliquer le principe et nous dire comment sont sélectionnés et qui sont ces jeunes qui peut-être demain seront en capacité d'agir dans leurs pays respectifs ?
Cet accent que nous avons mis sur la jeunesse, nous l'avons mis à la suite d'un séminaire interne que nous avions fait lorsqu'il y a eu le début du printemps arabe. Et on s'est demandé, est-ce que Aladin, avec sa volonté, comme je dis, de construire des digues contre et construire des ponts avec, et qui se passe toujours à travers la connaissance de la culture ou de l'histoire de l'autre. S'il n'y a pas cette connaissance, on ne peut rien obtenir. En disant que la connaissance, ça ne suffit pas. Mais la connaissance, c'est un préalable. D'ailleurs, vous savez que quand on écoute les grands leaders du monde arabo-musulman, ce qui les consterne, c'est l'ignorance dans laquelle on a laissé le monde arabo-musulman. C'est ça qu'ils mettent toujours en avant. D'un monde laissé sur le côté, on leur a enseigné l'ignorance, et donc c'est arrivé à une grande misère, une misère réelle, matérielle, mais une misère intellectuelle terrible. Parce qu'ils n'ont pas résolu à l'intérieur de l'islam ce que probablement nos autres monothéismes ont réussi à régler. Donc, pour répondre à votre question, c'est à la suite de ce séminaire qu'on nous a dit, écoutez, vous ne faites pas assez de choses pour la jeunesse. Alors, comme vous savez, ma chère Rachel, je suis très proche du ministère de l'Éducation nationale parce que je suis un ancien professeur de lettres dans un lointain passé. Et pour moi, vraiment, l'éducation était indispensable et l'université en particulier. Et donc, on a lancé les premières universités d'été. La première était à Istanbul. La deuxième a été à Berlin, comme vous l'avez dit. Et le principe est très simple. Pour les jeunes, peut-être, qui nous entendent, qui ont déjà bénéficié de bourses Fulbright, eh bien, j'ai voulu faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des étudiants brillants qui sont très bons au plan académique, mais qui sont très bons en matière de leadership, qui dans leurs études et dans leurs universités ont montré des capacités de s'intéresser bien sûr aux autres cultures, de montrer des qualités de leader. Donc on a sélectionné un certain nombre d'universités autour du pourtour méditerranéen, bien sûr, donc Maroc, Tunisie, Israël, des Palestiniens et des Israéliens, Jordanie, Turquie, et puis des Américains et des Français, des Sciences Po, des Italiens maintenant, toutes les très très bonnes universités. Et puis on a dit aux professeurs avec lesquels nous étions en relation, puisque nous avons un comité bien sûr d'universitaires avec des Turcs, des Français, des Anglais, des Marocains, on les fait travailler sur quoi ? La première université à Istanbul, on les a fait travailler sur le XXe siècle, les deux grandes guerres du XXe siècle, les massacres, les guerres, et puis la réconciliation, la construction de l'Union européenne, et où on en est aujourd'hui. Ça veut dire que après les plus grands conflits, après les plus grands massacres, les Européens à un moment disent stop, on se met autour de la table et maintenant on se construit ensemble. Et comme vous le savez, on n'a pas laissé les étudiants partir comme ça. Les étudiants, ensuite, on les a fait travailler sur des projets de recherche. Les meilleurs projets de recherche, nous les avons primés lors d'un très grand gala récemment à l'Assemblée nationale. Et puis, on a dit, bon, ben maintenant, c'est ceux qui vont devenir nos ambassadeurs, puisque ce sont des ambassadeurs de l'interculturalité. On va maintenant les faire travailler sur quels autres sujets ? À Berlin, c'était les religions. On était en plein dans les conflits. Et là, ils ont travaillé donc la même chose sur les conflits religieux, pourquoi est-ce que l'intolérance est arrivée dans notre monde, le monde occidental, le monde arabe, le monde africain, comment on s'en sort, comment on se sort d'un conflit de religion, etc. Et là, nous attendons justement les projets de recherche qui vont arriver. Et maintenant, nous aurons la troisième université d'été qui aura probablement lieu en Cappadoce et qui va traiter du pouvoir des images. Comment est-ce que les images manipulent les esprits, rapprochent ou au contraire éloignent? Et à partir du mois de janvier, nous allons donc amener les universités qui sont nos universités partenaires à sélectionner leurs étudiants en fonction maintenant de la thématique. Quand nous avons eu les questions plus politiques ou de guerre, on a plutôt demandé à des étudiants qui venaient... Alors, c'est toujours au niveau du master, en principe. On a plutôt demandé à des étudiants qui étaient dans les
relations internationales.
Voilà, dans les relations internationales. Je pense qu'avec les images, on va aller beaucoup avec les sociologues. On va aller aussi probablement avec les départements d'art, de publicité, de communication. On va certainement orienter parce que, moi, je peux vous dire, pour avoir à chaque fois fermé ces universités, parce que je suis toujours fermée, plutôt clôturée, allez, à la clôture. Cette année, ça s'est d'ailleurs terminé au Bundestag. Les étudiants sont très sensibles à ça. Les images, les réseaux sociaux, comment est-ce que ça perturbe, comment ils sont manipulés. Et c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. C'est pour ça que là, le comité universitaire a essentiellement travaillé. Et je pense que c'est là-dessus que les étudiants vont travailler.
Je crois que l'autre public sur lequel vous travaillez, ce sont les femmes, pour essayer de renouer ce dialogue arabo-musulman. Et vous avez organisé en février dernier un voyage à Auschwitz, en regroupant justement des femmes juives et musulmanes.
Oui, alors là, si vous voulez, ça a été... c'est bien que vous me rameniez vers la France. Là, nous avons commencé un travail sur la France. puisque jusqu'à présent, tout ce que je vous ai parlé, ça concernait tous les pays en dehors de la France. Et là, nous avons considéré, et j'ai en particulier décidé qu'avec l'accord de tout le monde, bien sûr, qu'il fallait voir ce qu'on pouvait faire dans notre pays. Donc ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce sujet des femmes, avec Fatia Benatsou, qui est la secrétaire générale d'Aladin, et puis surtout les deux marraines de ce projet, qui sont Suzanne et Samia, Suzanne Nakash et Samia Essaba, qui vraiment sont à l'origine de cette façon de travailler avec les femmes musulmanes, juives, françaises et non musulmanes, et qui ne font pas que les voyages. Je veux dire qu'elles se réunissent, elles travaillent, toujours avec l'idée de transmettre la culture de l'autre. Et effectivement, nous avons fait, à titre expérimental, un petit voyage avec Yvette Lévy, qui nous a accompagnés, donc survivante d'Auschwitz, qui nous a accompagnés à Auschwitz, un voyage traditionnel, comme ceux qui écoutent cette émission le connaissent, un voyage... avec aussi, il y avait des femmes de différents ministères, du Quai d'Orsay, du ministère des Femmes, de chez Najat Belkacem, hein, qui n'était pas à l'époque ministre de l'Éducation. Et ce voyage a été évidemment très éclairant. Et pour les femmes séfarades qui ne connaissaient pas Auschwitz, les femmes juives, dont Suzanne Nakash et d'autres, et puis les femmes musulmanes. À la suite de ce voyage, nous allons faire un autre grand voyage. Nous allons le faire probablement en décembre 2015, mais là nous ferons un voyage de femmes international comme résultat très symbolique, si vous voulez, de ce premier voyage. Eh bien, lorsqu'il y a eu Yom HaShoah, au mémorial, comme chaque année, avec la lecture des noms qui est organisée par le MJLF. Je me suis dit, oui, mais ce qui est important, c'est quand même peut-être que ce soit quelques-unes de ces femmes qui ont participé au voyage. Et j'ai donc demandé à deux d'entre elles, Majda Cherkaoui et Karima Berger, si elles n'accepteraient pas de lire quelques noms. Elles sont venues lire les noms avec beaucoup, beaucoup d'émotion, surtout qu'on avait toutes reçu des consignes. Il ne faut pas écorcher les noms, vous savez que parfois c'est compliqué, donc il faut répéter. Elles étaient extrêmement émues. Personne ne savait dans le public que Majda et Karima venaient d'Auschwitz, n'étaient pas des juives, étaient des musulmanes. Mais ça, c'est le premier impact. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un sentiment de partager des valeurs, qu'on soit de n'importe quelle culture. On les partage, et ce que je voudrais dire, c'est qu'entre femmes, ça se passe beaucoup plus simplement.
Donc, quelles sont vos prochaines échéances, Anne-Marie, pour le projet Aladin, pour finir cette émission ?
Pour finir cette émission, je voudrais parler de deux projets. D'abord, nous avons, comme nous avions fait le premier séminaire à Istanbul à l'intention des éducateurs du monde musulman en 2013, en 2015, nous allons faire trois séminaires qui sont déjà programmés. Le premier à Dakar pour les musulmans ou pays musulmans à majorité musulmane de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire non seulement les éducateurs du Sénégal, mais Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali, Cameroun, Gabon et Mauritanie. Ça, c'est en février. Nous allons faire ensuite au Kazakhstan, à Astana, un deuxième séminaire, cette fois-ci pour les républiques musulmanes asiatiques, avec la Chine, le Tadjikistan, le Turkménistan, il y a beaucoup de stands, hein, le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan. Donc là, c'est un autre, mais c'est toujours la même chose sur des populations. Là, ils ne sont pas négationnistes, mais ils ne connaissent rien. Et ensuite, le troisième séminaire que nous allons faire à Bakou, en Azerbaïdjan. Et cette fois-là, c'est un grand enjeu. Ce sont les républiques des pays du Golfe, les Émirats et l'Arabie Saoudite. Donc là, ce sont des challenges en quelque sorte. Ce sont des séminaires internationaux où vous avez les experts de beaucoup de pays qui viennent pour expliquer comment est-ce qu'on peut enseigner la Shoah, prévenir les génocides et avoir une culture de la paix. Et ensuite, si les ministères d'éducation et les universitaires sont partants, ils pourront aller se former. Ça, c'est le grand projet. Le deuxième projet, peut-être que j'aurai l'occasion à son retour d'en parler, c'est le premier séminaire que nous lançons à Toulouse. Vous savez qu'après l'affaire Mera, j'ai été personnellement interpellée en me disant qu'il y avait un certain nombre d'actions. J'avais le sentiment qu'elles n'étaient pas faites en France, ou peut-être difficilement faites, et que Aladin ne pouvait pas uniquement regarder à l'extérieur. Donc, nous avons beaucoup réfléchi avec un certain nombre d'inspecteurs généraux, d'historiens, sur ce qu'Aladin pourrait faire. Et donc, avec la rectrice de Toulouse, nous allons initier la première formation des professeurs d'histoire en formation continue. Probablement, il y aura des professeurs de lettres à Toulouse le 28 janvier, où nous allons expliquer l'histoire, puisqu'encore une fois, Aladin se préoccupe d'éducation, l'histoire des relations des Juifs dans les trois pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, depuis le début du siècle zéro jusqu'à la colonisation, décolonisation, émigration, immigration et intégration.
Merci beaucoup Anne-Marie Revkolevski. Les auditeurs peuvent, pour plus d'informations, se rendre sur le site projetaladin.org et je rappelle que le projet Aladin bénéficie du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Et si les auditeurs veulent aller regarder ce que les universités d'Aladin ont fait, elles sont en ligne, en anglais bien sûr, et il faut se mettre sur le site iuil.org. Vous aurez tous les cours en ligne avec les biographies des intervenants et je pense que c'est très intéressant.
Très bien. Et le programme et l'évaluation même de cette université d'été.
Et merci à la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web ou radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.